Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon mois spécial Halloween. Et pour cet épisode, j'aurai la participation d'un ami qui a eu la chance de découvrir le jeu à sa sortie. Et cet ami, c'est le Corbeau. Ça va bien?
Ah bah ça va, ça va.
Parfait, pas trop stressé?
Non, ça va, c'est devenu une petite habitude là. On a déjà un peu de bouteille, pour le dire vite quand même, hein.
On va le dire vite, mais ça marche, c'est une bonne habitude.
Ouais.
Bon, alors cette petite pépite est sortie en 1992 sur DOS, puis l'année suivante sur Mac et 3DO, pour ceux qui l'auraient oublié. Il a été édité par Infogrames, qui se nomme maintenant Atari, et son patron Bruno Bonnell. Je devrais lui consacrer un petit peu de temps à cet escroc. Bon, il a surtout été développé par Frédéric Reynal, un petit surdoué du jeu vidéo français, comme on en a très peu eu. Alone in the Dark a eu un développement qu'il serait charitable de décrire comme chaotique. Au départ, une adaptation de Lovecraft, ce qui se ressent toujours un petit peu, et il développera par la suite sa propre mythologie suite à la perte de la licence. Mais entre la mise en chantier et la perte de la licence est entré dans la danse un individu aussi talentueux que lunaire, Frédéric Reynal. Et surtout son moteur 3D maison, mais vraiment maison, bricolé le soir après le boulot. Moteur qui lui a permis de monter une petite équipe et de mettre sur pied dans leur coin, plus du travail de la journée, une petite démo du jeu, alors nommée In the Dark. Et après avoir vu cette démo, Bruno Bonnell, qui jusque-là refusait que Reynal ne s'occupe du projet, va le mettre à la tête d'une équipe et lui donner enfin le feu vert pour la création d'Alone in the Dark. Et ce qui nous amène à la sortie du jeu et à sa découverte. Et ça tombe bien, le Corbeau l'a découvert à sa sortie. Tu peux nous en dire un peu plus?
Eh oui, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, même ceux de 30 ans d'ailleurs, hein, faut bien
Ouais, j'allais
l'admettre.
dire même 30, hein.
Complètement. Donc c'était 1992. Alors 1992, j'avais 16 ans, hein, la mèche au vent, la plaquette d'abdos. Bon, J'exagère un petit peu, hein, mais voilà. Donc 16 ans, mon premier PC que j'avais eu en juillet, un 386 DX40 AMD, avec 4 mégaoctets de RAM, et accrochez-vous, un disque dur de 80 mégaoctets. Hein. Qu'est-ce qu'on faisait de tout ça ? Ah ouais, hein. Qu'est-ce qu'on faisait de toute cette puissance à l'époque ? On ne sait pas. Hein.
Tout cet espace disque ?
Ouais, toute cette place. Là, 80 mégas, mais on les remplira jamais. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Voilà. 92, j'avais eu mon premier PC. Donc j'avais eu quelques petits jeux à l'époque. Ben, tout le monde a connu, hein. Enfin, une partie a connu, des disquettes. J'ai eu ce jeu sur disquette, si je me rappelle bien. Il y a eu une version CD-ROM, comme tu disais, mais je l'ai eu sur disquette. Donc,
ouais, la disquette était sans le son, je crois, en fait.
Je me rappelle pas, mais pour moi, non, j'avais pas de lecteur CD-ROM quand il est sorti ce jeu et j'avais le son. J'avais pas de lecteur, je crois pas avoir de lecteur CD.
Ou sans musique.
Non, j'avais tout.
Comme ça, il y avait peut-être des sons.
Pour moi, j'avais les musiques, j'avais absolument tout. Je me demande ce que rajoutait la version CD-ROM à part éviter justement la multiplicité des disquettes, quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, je joue sur mes souvenirs.
Sans doute, oui.
Donc, t'avais un paquet de disquettes à passer, hein, séquence de grille peinte, tu pouvais copier tes jeux comme ça. Hein, à l'époque, j'ai d'abord eu mes premiers jeux en les copiant, hein, des petits jeux que j'avais récupérés.
Ah ben bravo.
Bah oui, c'est pas. Ah, on commence tous comme ça. Hein, ouais. On a acheté déjà le PC qui nous a coûté une fortune à l'époque. Je crois qu'on l'avait payé.
Oui.
Oh là là, je me demande si mon père l'avait pas payé de l'ordre de 14 000 francs. T'imagines un petit peu, là, on se rend plus bien compte maintenant, mais c'était une somme phénoménale, quoi. C'était absolument impressionnant.
Un bon mois de salaire. Hein.
Oh! Largement à l'époque. Hein.
Ouais.
Déjà, il m'avait fait un petit peu la gueule parce que c'est moi qui avais un peu insisté pour cette machine-là. Il était allé jusqu'au bout. En plus, on avait tout acheté. Hein. Il y avait la carte Sound Master Plus, les enceintes, l'écran cathodique, je crois qu'il faisait 15 pouces à l'époque, 14 ou 15 pouces. C'était énorme.
Ah oui, c'était une belle bête quand même.
Ouais, il affichait au moins du 1024x768. Voilà, je vous ai vendu du rêve avec une carte 256 mégas. C'était trop beau, quoi. 256 couleurs, pardon, hein, si je me rappelle bien. Donc voilà, donc avec cette machine, j'ai commencé avec mes premiers jeux, tout simplement, que j'avais copiés. Et à la fin de l'année, j'avais vu, à l'époque, je lisais Tilt, je crois. Ouais, c'était Tilt. Je crois qu'ils avaient parlé de Alone in the Dark. Or, c'était la révolution. De la 3D calculée en temps réel, un environnement et puis une histoire basée sur une nouvelle de Lovecraft. C'était le hit de la fin de l'année. Donc, je l'ai demandé à mon père pour Noël.
Tilt, il l'avait méga vendu, ouais.
Ouais, il l'avait. Je crois qu'il y avait même une couverture dessus, hein, si je me rappelle bien. Alors là. Souvenir.
Tilt, Gen 4 et...
Il y avait Gen 4 et Joystick. Ouais. Il y avait Génération 4, Gen 4, ouais, et Tilt. Ah, j'avais oublié Gen 4, dis donc. Gen 4, Tilt et Joystick pour moi.
Ouais, sans doute, ouais. Moi, je me souviens de Gen 4, ouais, qu'ils avaient fait une couille, ils avaient mis que c'était chef-d'œuvre absolu, enfin, la totale, quoi.
Voilà, on était d'accord à l'époque. Hein. Même maintenant, on peut toujours dire que ça a vieilli, mais oui, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Donc... Tu vois, j'avais déjà racketté mon père pour un ordinateur, et puis à Noël, nouveau racket pour avoir le jeu. Hein. Et puis je lui avais dit, vas-y, en plus, fais-moi un beau paquet cadeau. Tu vois, je voulais jouer le complet, jouer le Père Noël, quoi. À 16 ans, la honte, quand même.
Total. Oh, y a pas d'âge.
Ouais, mais bon. Donc il m'avait fait un beau paquet, et à mon avis, pour se foutre un peu de moi, il m'avait fait un paquet avec plusieurs épaisseurs. J'ai dû mettre au moins 5 bonnes minutes à réussir à l'ouvrir, quoi. Voilà.
Ça, c'était bien vu.
C'était bien vu. Donc, t'imagines... Le soir de Noël, bon, mes parents vont se coucher, moi je reste avec le jeu, je l'installe tranquillement en bas, puis j'avais tout, j'étais dans la salle à manger dans laquelle je me trouve actuellement, hein, encore, voilà, pas exactement à la même place, mais dans la salle à manger, le feu de cheminée, hein, histoire de rajouter à la bonne ambiance, quoi, donc tu vois, bien cosy.
Normal, à Noël.
Bah oui, t'as le sapin, t'as le feu de cheminée, t'as bien mangé, tout va bien, et tu lances le jeu.
Le chocolat joue avec les chamallows.
Ouais, non, on faisait pas ça à l'époque, mais si j'avais su, je l'aurais dû le faire, quoi. Donc tu vois, et donc, puis tu vois, un feu de cheminée, ça te fait des ombres sur les murs, ça te met déjà l'ambiance, etc. Donc,
ah oui,
tu vois,
c'est sympa, ça.
Voilà, donc je m'installe le jeu et je le lance. T'as une petite présentation avec le personnage principal qui, lunette, lui donne mandant de venir dans un vieux manoir, une vieille bâtisse. Il est détective privé. Ça se lance comme ça. T'as une petite musique, tu vois la voiture arriver vers la bâtisse, et le jeu démarre comme ça.
Du coup, moi je l'ai découvert, c'est un petit peu moins romanesque, hein. Évidemment, j'ai entendu parler de ce jeu depuis des années, je connais le parallèle qui est fait avec Resident Evil qui me terrifie d'ailleurs. Du coup, il y a 2 ans, un petit peu avant la naissance de ma fille, je me décide. Je vais sur abandonware.fr, et du coup je télécharge le jeu et c'est suite. Je prends mon courage à deux mains, je lance le jeu. Bon, comme tu l'as dit, on a un bel artwork, on a une musique d'ambiance,
oui.
Puis le point de vue de quelque chose qui nous observe depuis le grenier.
Ouais.
L'avatar descend de la voiture, monte les 3 étages tranquille pour se diriger vers le dit grenier. Bon, À ce moment, on peut incarner soit le détective Edward Carnby, soit Emily Hartwood, la nièce du suicidé.
C'est ça.
Mais je crois pas que ça change grand-chose au jeu.
Dans mon souvenir, le fait était un petit peu moins fort ou quelque chose comme ça. Je crois qu'ils avaient fait cette légère
Peut-être, mais
différenciation. Mais honnêtement, moi je jouais toujours le moustachu, quoi, donc bon, je peux pas.
ben, moi aussi, mais quand j'essayais un petit peu Emily Hartwood au début, je les trouve faibles tous les deux. Enfin,
D'accord.
bref. Donc, à la première minute, on a un monstre qui franchit la fenêtre. J'ai justement tenté le combat au corps à corps. Et bon, faut comprendre le timing des coups, mais je meurs assez vite. Deuxième tentative, j'ai un bon timing, ça passe, mais je suis déjà presque mort. Il y a un deuxième monstre qui apparaît, blâme, remords. Encore quelques meurs ridicules, mais au moins, j'ai pas peur. Je sais où les monstres vont surgir et quand. Et du coup, je sais comment me battre avec les bons timings, mais c'est long et la moindre erreur, voilà. Ça coûte cher. Du coup, ça m'a un peu cassé les noix et j'ai laissé tomber. Et toi, du coup, comment ça s'est passé tes premiers pas?
Ah ben les premiers pas, c'était épique, j'avais pas mis la musique trop fort évidemment, hein, mais bon, la petite musique de fond qui te gère une ambiance, comme tu dis, le premier monstre, il arrive, si je me rappelle bien, par la fenêtre. Voilà. Toi, au
Ouais,
début, tu commences
on le
dans le
voit
grenier.
déjà avant qu'il passe.
C'est ça. Donc au départ, tu es dans le grenier. En fait, tu as vu toute la séquence qui te fait monter au grenier, puis d'un coup, la caméra, ben, comment dire, elle se fixe. Et là, tu récupères les contrôles. Donc, avant de faire le tour du grenier, souvent, tu commences à marcher pour voir un peu ce qu'il y a à chercher, tu fais l'inventaire de ce que tu peux trouver. Bon, si t'es pas prévenu, comme tu dis, t'as le monstre qui surgit par la fenêtre. Bon, déjà, ça, c'est une bonne surprise. En plus, t'as de la petite musique qui tourne en toile de fond, et puis quand un monstre apparaît, t'as une sorte de choc sonore, et bah voilà, tu dois
Ouais,
te
un petit
battre,
jumpscare.
etc. Donc après, t'as compris qu'il y a une armoire, que tu peux pousser l'armoire devant la fenêtre pour éviter ce premier combat, avoir le temps de chercher. Il y a aussi un coffre plus loin, que tu peux pousser sur une trappe. Et t'as intérêt à le faire aussi, parce que là aussi, t'as un monstre qui arrive par la
Pour
trappe.
éviter le deuxième
C'est
monstre.
ça. Voilà, donc tu te fais tuer, comme tu disais, plusieurs fois tout au départ, parce que bah, t'es pas habitué à la chose, tu sais pas où les monstres vont sortir. C'était l'avantage et l'inconvénient des jeux de l'époque. C'était très linéaire. Le monstre qui apparaissait à tel endroit réapparaissait forcément toujours là si tu reprenais la partie, quoi. T'avais pas une surprise, hein, et il t'attendait pas dans les toilettes alors qu'il avait jamais été là avant. Voilà.
C'est déjà ça, mais c'est vrai que par contre c'est punitif, la moindre faute, t'as
Ah,
perdu, hein,
c'est
t'as intérêt de
ça.
sauvegarder souvent.
Et comme tu disais, fallait un timing, le monstre s'approchait de toi, et puis comme c'était une 3D, faut l'admettre, bah, c'est vieux maintenant, hein, c'était un peu mal foutu. Des fois, les distances, t'avais un peu de mal à les évaluer, la caméra était pas toujours judicieusement placée justement pour pouvoir évaluer cette distance, donc tu prenais un coup alors que tu pensais pouvoir frapper le monstre.
Ouais, et puis la hitbox est particulière, et surtout le rythme où tu mets le coup est assez particulier, le mouvement
Oui,
est découpé en 5 ou 6 phases
c'est
facilement,
ça,
donc
tu dois bien gérer le moment où tu lances ton coup pour être sûr qu'il frappe ton adversaire. Ouais, fallait prendre la chose en main au départ. Ouais, comme tu disais, tu mourrais
c'était
assez
pas
souvent.
évident.
Ouais, tu mourrais assez souvent au départ, quoi. Voilà.
Ouais, et puis en plus, les adversaires, c'était pas un coup de pied, ils sont morts, c'était 10, 12,
Ouais,
voire plus,
fallait
jusqu'à
frapper un
temps qu'ils
certain nombre
s'étalent,
de
quoi.
fois si t'étais, parce qu'au départ, tu commences, t'es à main nue, tu peux trouver assez vite des armes, hein, mais c'est vrai que.
Qui sont pas utiles contre tout le monde, la petite blague.
Oui, ça aussi, tu te rends compte un petit peu après. Donc comme je disais, oui, tu commences le jeu, bah, je peux dire, l'ambiance, les musiques, les flammes sur le mur, je peux te dire que à l'époque, j'emmenais pas large, quoi. On t'est pas terrorisé, mais tu sais, t'avances tranquillement dans les couloirs, t'es pas rassuré. Puis tu parlais de
T'es pas serein.
Resident Evil, ouais, c'est la scène, tu rentres dans une chambre, hein, tu contournes le lit, et à ce moment-là, tu vois la caméra qui à l'extérieur, et hop, t'as un monstre qui rentre. Ça aussi, hein, pour beurrer son calcif, c'est quasiment instinctif, quoi.
C'est
Hein,
pas mal, hein.
ouais, c'est ça
Et cette
surprend.
scène-là, c'est vrai qu'elle a été bien reprise dans Resident Evil, hein,
Ouais,
exactement,
c'est ça.
au plan près.
C'est ça. Et c'était. Alors, je sais pas qui est le véritable. Comment dire? Qui est le premier qui a fait ça, parce que peut-être que d'autres jeux l'ont fait d'une autre manière, ça je pourrais pas dire quoi, mais on y pense forcément, on fait forcément le lien entre les deux jeux.
Oui, bah ouais, surtout que Alone in the Dark est quand même sorti 3 ans avant Resident Evil, il y a quelques scènes reprises plan par plan, mais après le déroulé des jeux est quand même très
Oui,
différent.
complètement. Moi, je parlais uniquement pour cette scène-là, quoi.
Ah oui, cette scène-là, oui, clairement, mais elle est elle-même inspirée du cinéma, donc.
Oui, donc oui, ils t'ont repris et ils ont bien réussi le coup, hein. Faut avouer que la première fois, t'es bien surpris, et puis après, tu fais comme tu disais, hein. Tu ouvres une porte, un monstre surgit, tu sais qu'il va surgir, donc tu prépares tes coups, tu te cales,
Ou tu n'ouvres pas la porte.
ou tu n'ouvres pas la porte, hein. Ou des fois, je crois que j'ai réussi des fois à coincer des monstres en se mettant dans une certaine position, il n'arrive pas à t'atteindre et toi, tu peux le frapper. Voilà.
Ah, c'est possible, ouais, il y a peut-être un ou deux glitches comme ça.
Ouais, tu peux en profiter un petit peu. Bon, tu peux pas le faire à tous les endroits, mais j'ai déjà réussi à le faire une fois ou deux. Bon, et ça marche pas à tous les coups aussi. Des fois, tu penses, tu te dis, bon, ça y est, là, je l'ai coincé. Non, non, tu l'as pas coincé, il arrive à bouger, il vient vers toi. Donc, tu vois, ça marchait pas à tous les coups non plus, quoi. Voilà, donc le jeu, ça se passe dans un vieux manoir, une vieille baraque. Hein, je sais pas, c'est pas la Nouvelle-Angleterre, c'est ça? C'était ça
Alors,
le.
je crois que c'est le manoir d'Erchetto, et oui, je crois que c'est la Nouvelle-Angleterre.
C'est ça. Donc. Le
Je
vieux
suis pas
manoir,
sûr
comme
à
tu peux
100%,
l'imaginer
mais.
dans un film d'horreur, quoi. Abandonné, les planchers qui grincent, des armures, des portes qui grincent. Enfin, t'as la totale du
Le
manoir.
plancher qui s'effondre.
C'est ça, le plancher qui s'effondre. Oui, on s'est tous fait avoir. Hein.
Oh putain, en beauté.
Ah bah, en même temps, on était prévenus, il y avait des petites marques au sol, quoi. Mais tu dis, allez, c'est peut-être un défaut d'affichage, et paf!
Ouais, ce que je veux dire, tu fais pas gaffe, tu te dis tiens, il y a un glitch.
C'est ça. Loupé. C'était bien un piège. Et donc ce jeu, comme tu disais, il était, comment dire, était basé sur une nouvelle de Lovecraft. Enfin, sur plus que sur une nouvelle, sur
Sur
l'univers,
l'univers plutôt.
plutôt sur l'univers de Lovecraft, quoi. Avec tout ce que. Je ne sais pas si toi, tu as déjà lu du Lovecraft, beaucoup.
Oui, si j'en ai lu un petit peu quand
J'en ai lu
même,
un
pas
peu
pour me faire une idée,
aussi,
hein.
ouais, j'en ai lu aussi un petit peu. C'est vrai ces histoires, mené une ambiance, raconter une histoire. Alors c'est souvent c'est plutôt ardu à lire en fait, hein, Lovecraft, faut bien l'admettre.
Ah oui, c'est ardu, ouais, il y a des mots,
Oui, des fois tu dis
comment on
qu'est-ce qu'il
pourrait
a voulu
dire?
dire, et puis même des tournures, puis les idées qu'il avance, etc. En fait, t'arrives pas des fois à ce que tu lis, t'arrives pas à te le mettre en image dans ta tête. Voilà, c'est.
Non, puis il y a un moment où aussi tu laisses tomber ta compréhension pour vraiment te laisser porter par ce qu'il veut dire, même si tu percutes pas tous les tenants et aboutissants, tu percutes l'idée, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et c'est plutôt. Moi, j'en ai lu quelques-uns. J'avais la collection. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que c'est trois gros tomes du style bottin, quoi. Mais c'était.
Et la collection chez Bragelonne, là?
Ouais, ça doit être celle-ci, ouais. Trois gros
Ah,
bouquins
elle est belle,
blancs,
celle-là.
etc.
Ouais.
Et je crois que j'en ai presque fini le premier, mais tu vois, les deux autres, depuis le temps que je me dis je vais les lire, bah, ils attendent sur mon étagère avec tout le reste que j'ai à lire, tout le reste que j'ai à voir, tout le reste que j'ai à jouer, tu vois. On en est
Les
tous là.
fameuses étagères bien pleines.
C'est ça,
Ouais,
c'est
bah oui.
ça. Voilà,
Ouais.
comme tout le monde.
Surtout que Lovecraft, tu te les enquilles pas comme ça quand tu lis une nouvelle, après t'as du mal à enquiller la deuxième. Tu dis attends, je vais la laisser passer un peu.
Et puis c'est souvent des nouvelles un peu touffues, quoi. C'est bien chargé. C'est pas facile
C'est
à lire.
dense.
C'est pas facile à lire dans le RER, quoi. Par exemple,
Ah bah non.
faut un
Ouais,
minimum
par
de
exemple, ouais, c'est pas évident.
concentration. Faut bien être
Du
dedans, etc.
calme.
Faut du calme. Faut du calme. Et le calme aidant aussi pour l'ambiance qu'il crée, quoi. Tu le lis tout seul chez
Ah
toi
bah
le
carrément,
soir,
oui.
etc. Tu dors avec un fusil, hein, obligé, quoi.
Il y a des chances, mais le moindre bruit, ça te...
Ah, faut pas que madame se lève pour aller aux toilettes dans la nuit, hein, c'est un truc à se faire massacrer, quoi. Oui, il y a l'ambiance dans le jeu qui était pas mal retranscrite. Bon, comme on disait, le jeu, la facture technique maintenant, elle est dépassée à outrance. Mais quand il est sorti, c'était une pure révolution.
À outrance, j'irais pas jusque-là par rapport au jeu qu'on voit à PS1 encore, que des gens adultes, c'est pas moche, hein, ça tient encore la dragée au jeu PS1, hein.
Oh, c'est. Comment dire,
La
pas.
caméra, elle suit,
Oui, la caméra
elle est jamais aux
et la 3D,
fraises.
mais c'est surtout la maniabilité comment dire, qui est vraiment très dure à. Enfin, qui est très dure. Justement, les jeux PS1 ont permis de faire un bond dans la 3D calculée, etc. Comme tu
Oui, c'est
disais,
sûr.
les hitbox, j'ai bien géré son temps. Logiquement, maintenant, les jeux qui ont ce genre de comportement, on considère qu'ils ont un problème. Alors qu'à l'époque, c'était une limitation technique, quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, on peut voir ça comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour l'avoir essayé, moi, bah, comme je disais, il y a 2 ans, ça m'a pas choqué plus que d'autres jeux, quoi. J'étais au courant que j'attaquais un vieux jeu, ceci dit, mais ça m'a pas choqué plus que d'autres jeux de la même époque, comme je repensais à Magic Carpet, qui est sorti à peu près au même moment, je pourrais pas y rejouer, hein. Enfin, j'ai réessayé, je peux plus, quoi, c'est vraiment trop moche.
Bah, il y a bien des gens qui arrivent encore à jouer à comment s'appelle GoldenEye sur Nintendo 64. D'un point de vue facture
Bah oui.
technique,
Moi
c'est.
j'y joue.
Oui, bah, je sais, c'est bien pour ça que j'en parle.
Moi j'aime bien GoldenEye sur 64.
Je peux pas te dire, moi j'ai joué une ou deux fois quand il est sorti, mais j'avais pas de Nintendo 64, tu vois, j'étais un enfant malheureux, hein. Enfin, un enfant, quand il est sorti la Nintendo 64, j'étais plus déjà un gosse, mais bon, voilà.
Ouais, non, peut-être pas, hein.
Mais non, je n'ai pas une Nintendo 64, ah, j'ai l'impression que je suis passé à côté de quelques trucs quand même, hein. C'est dommage.
Il y a eu des bons petits trucs, ouais, mais bon, la plupart se retrouvent ailleurs maintenant. Bon, on va essayer de revenir un petit peu sur Alone in the Dark, je vais reprendre un petit peu la main. Et bah, du coup, comme je le disais, je ne l'ai pas laissé tomber, j'ai relu un peu l'histoire et je vais la raconter un petit peu plus en détail, on va dire, par rapport à ce qu'on a fait jusque-là. Donc, au début du siècle, Jeremy Hartwood est retrouvé pendu dans le grenier de son manoir à Derchetto, au fin fond de la Nouvelle-Angleterre. Bah voilà, tu vois, c'était écrit.
Voilà.
Le médecin légiste a conclu une crise de paranoïa, raccord avec l'état d'esprit délirant du défunt. Théorie confirmée par le majordome qui mentionne aussi le carnet sur lequel Jeremy Hartwood passait beaucoup de temps à noter des traductions de manuscrits étranges. Là, on retrouve un petit peu l'influence de Lovecraft par rapport aux manuscrits étranges et autres.
Complètement, oui.
Ce qui frappe d'emblée dans le jeu, bah, comme on disait, c'est la 3D et les angles de caméra fixes. Plus qu'une simple innovation, c'est carrément une révolution. Là, on est en 92, soit 4 ans avant Resident Evil, la 3D s'apparente jusque-là à des polygones plus ou moins mouvants, ou à du fil de fer sur fond noir si on considère que la Vectrex était en 3D. Après, une question de point de vue, moi j'aime bien la Vectrex. Et là, on a des persos en 3D, des décors en 3D également, et tout ça rendu possible grâce aux caméras fixes, justement, qui consomment un petit peu moins de ressources. Et ce qui était une contrainte technique devient le point fort du soft grâce à des angles de vue audacieux et terriblement ingénieux, comme celui de la fenêtre avec le passage qui nous a tous terrorisés. Bon, revenons au grenier. Donc, comme on disait, les premiers monstres battus, j'ai commencé à comprendre le truc. En fait, il faut c'est du die and retry, hein, et faut pas chercher à combattre. Faut chercher à empêcher le combat le plus possible, l'esquiver. Donc, ben, effectivement, on met l'armoire, on met le coffre sur la trappe. Qu'est-ce qu'il y a après? On sauvegarde, on descend, le plancher s'effondre.
On n'oublie pas de
Merci de la
fouiller
bonne blague.
aussi. On n'oublie pas de fouiller. Faut
Oui,
fouiller. Tu
c'est
fouilles
vrai, il
derrière le
faut fouiller
piano,
partout.
derrière le panneau, la bibliothèque, etc. Faut ouvrir le coffre. Oui, faut fouiller. Trouver tout ce que tu peux. Ça aura forcément une
C'est vrai, on trouve
utilité.
assez vite, tout aura une utilité, il n'y a rien qui va être inutile. Je crois que c'est là qu'on trouve l'épée, on trouve la lampe, on trouve pas mal de petites choses.
Les miroirs, un vase même, avec. Il y a un vase avec des clés dedans. Voilà, tout a son utilité. Faut fouiller.
Tout a son utilité. Oui, même le sabre qui va servir à battre tel fantôme en particulier, le fusil qui va servir à autre chose, l'arc qui va servir à un autre moment. Tout a une utilité, mais faut trouver la bonne.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a pas de seconde chance en plus. Si tu utilises toutes tes cartouches de fusil, bah t'es coincé au moment où t'en auras besoin, bah t'es coincé. Si tu casses l'épée au moment où t'en auras besoin, t'es coincé.
C'est ça.
Donc c'est sympa. Donc voilà, donc le plancher s'effondre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite blague? Game over immédiat. Ah oui, il y a la salle à manger aussi, remplie de revenants. La première fois qu'on tombe dessus, bon, outre salir son slip, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de tirer dans le tas.
Normal.
On n'a pas assez, on meurt. Alors que en fait, quand on a la solution, c'est plutôt simple. Tu t'en souviens de celle-là?
Alors la salle à manger, c'est ce que tu appelles la salle à manger, c'était la salle de bal avec tous les mannequins
Alors non,
debout.
c'est vraiment la salle à manger, ils sont tous debout effectivement, mais autour d'une table.
Alors si je me rappelle bien, faut pas mettre un plat sur la table.
C'est ça, faut leur amener la soupe, et du coup ils s'occupent de la soupe et ils te font foutre la paix.
D'accord.
Voilà, donc en fait c'est que chaque adversaire essaie plus à voir comme un puzzle ou une énigme à résoudre que comme vraiment un combat. C'est là la grosse différence avec Resident Evil qui était quand même plus orienté action, c'est que là on est plus dans le puzzle constant.
C'est ça.
À mon goût. Bon, et toi alors, qu'est-ce qui t'a marqué spécifiquement comme petite vacherie qu'on retrouve dans ce manoir?
Alors moi, c'était déjà les, je me suis repassé une vidéo du jeu pour me le rafraîchir un petit peu la mémoire, quoi. Et il y a plein de choses qui sont revenues. Ben déjà les monstres sur le palier et les monstres jumeaux. Au début, tu comprends pas, tu essayes
Oui.
de les vaincre, tu vides ton
Qu'est-ce
chargeur.
que j'ai passé comme temps sur eux?
C'est ça. Et puis tu vois les deux statues, et puis tu essayes de poser un miroir dessus, un miroir d'un côté, un miroir de l'autre, et ils finissent par exploser tout seuls. Voilà. Alors ça,
Mais en fait, c'est pas tu poses un miroir direct, c'est t'essayes tout ce que t'as dans ton inventaire,
c'est
comme dans
ça.
les click and point de l'époque. Et à un moment, le miroir, oh, ça marche!
C'est ça. N'oublions pas, chers auditeurs, que à l'époque, on n'a pas Internet, état JV PC ou des trucs comme ça pour trouver une solution. Donc la solution.
Alors, des fois, quand t'es chanceux, t'as la disquette, l'encyclopédie des trucs astuces du jeu vidéo que t'as filé un
Oui,
pote, hein, quand t'es
quand t'es
chanceux.
chanceux. Mais quand tu l'es pas, des fois tu regardes dans les petites annonces de Tilt des personnes. Je crois qu'il y avait des solutions pour certaines choses, pour certains jeux. Il y avait des indices que tu pouvais trouver, mais enfin c'était oui. T'avais aucun moyen d'avoir la solution du jeu. Donc tu jouais avec des copains. Moi j'avais copié le jeu à des copains. Et évidemment, c'est pas bien, hein, mais je leur avais copié sur disquette et le manuel, il y avait aussi un petit manuel qui était vendu avec. Qui te permettait qu'il fallait rentrer un code, par exemple, il te demandait telle page, qu'est-ce qui est apparaît sur Apache? C'était le moyen de comment dire, c'était l'antivol.
Ah oui,
Mais ce
l'antivol.
petit manuel était tout petit, tu pouvais pas le photocopier, c'était un bouquin minuscule, quoi, 3 par 4 cm, un truc comme ça, quoi. Donc j'avais tout recopié à la main. Voilà, j'avais
Ouais,
tout
bah
recopié à
c'est
la main
l'idée,
pour
hein.
expliquer, pour offrir aux potes le moyen de jouer au jeu. Et on avait un petit peu avancé comme ça pour certains d'entre eux, quoi.
Eh bien, quand tu le connais pas, le jeu, il est vraiment pas évident. Quand tu le connais, je pense que tu peux le
Ouais,
finir
tu
en
peux
1 heure, 1 heure et quart
retrouver.
sans trop de
Même
problème.
avec
Mais
le
quand tu le connais
recul,
pas.
quand j'ai revu la vidéo, tu vois un truc qui se passe, tu dis, ah oui, ça te revient au fur et à mesure que tu le fais. Il y a des choses, comme tu dis, le repas à table, tu m'as dit, au début j'ai pensé que c'était la salle de bal, puis tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Là, ah oui, ah, mais, allez, tu vois, il y a des choses, ça a 20 ans, des choses qui te reviennent, comme ça. Ça t'a marqué,
Ah
tu y as
bah oui.
pensé. Il y a la salle de bal aussi. La salle de bal, au début, tu vois plein de fantômes qui dansent, et je crois qu'il y a le pirate qui apparaît aussi, ou à côté, je sais plus.
Alors, le pirate,
Il garde une
il
porte.
garde une porte, lui. Donc c'est
Ouais,
juste après la salle de bal, je crois. Ouais, il garde la porte
et
qui
la
permet de
salle de
descendre au
bal, enfin,
sous-sol.
ouais, la
Et lui, il
salle
faut
de
le
bal,
battre
si
en
je me
duel.
rappelle bien, tu dois rentrer dedans, mais les fantômes bougent au fur et à mesure. Tu dois pas les toucher, tu peux pas les vaincre. Alors, je crois que le seul moyen qui ne te gêne plus, c'est de mettre la bonne musique pour qu'ils s'écartent, si je me.
Ouais, faut piquer le tourne-disque et les disques qui sont, je sais plus dans quelle pièce,
Voilà,
et leur
c'est
mettre.
fou. C'est ça, c'est plus un jeu d'énigmes aventure que plutôt aventure action ou plus action comme est Resident Evil en fait.
Ah oui, clairement, oui.
Ah oui,
Bah
t'as
là
moins
aussi, t'as
d'armes, mais
beaucoup
t'as tes
moins
moments
d'armes.
de trouille quand même, hein, parce que t'as toujours l'ambiance, t'as des couloirs vides,
Ah oui,
etc.
par contre, oui.
T'as une armure de chevalier aussi, qui est, okay, si je me rappelle bien, faut pas s'en approcher.
Qui
Hein,
te suit?
c'est ça. Ouais, faut pas s'en approcher, etc. Puis il y a l'ambiance. Oui, tu croises absolument personne. T'as quelques monstres, mais c'est un manoir hanté. T'as pas un PNJ qui est là pour te donner une indication, etc. T'es seul. Voilà.
Ah oui, t'es seul et même le son, on entend le son de ses pas surtout quoi. Il n'y a presque pas de musique, elle n'est pas tellement présente. C'est assez
Et quand la musique se
angoissant quoi,
déclenche, ça veut
effectivement.
souvent dire qu'il y a quelque chose qui t'arrive dessus. Donc, t'as la totale.
Donc ça va pas tarder,
C'est
oui.
ça.
Ah, puis chaque scène de mort, elle est assez traumatisante. Tout à l'espèce de monstre qui t'entraîne dans le sous-sol, là, vraiment dans les entrailles de la terre jusqu'à un hôtel, un hôtel sacrificiel bien sûr.
Évidemment, pour comment dire, offrir
Voilà,
ton
ça
corps au
marque
maître des
l'ambiance.
lieux, quoi. Ouais, c'est ambiance sympa,
Voilà.
quoi. Voilà.
C'est ça, déjà dès le début, on te parle de suicide, de mec qui est devenu fou. L'ambiance va être bonne.
C'est ça, bah, toujours Lovecraft. Je crois qu'il a une ou deux nouvelles où ça commençait quelqu'un comme ça, quoi. Il a envoyé une lettre à un neveu, un cousin, comme quoi la folie le gagnait. Le cousin vient sur place et il
C'est
essaie de
ça.
comprendre. Voilà. Oh, le gars était quand même un petit peu
Sauf
secoué,
que
hein.
c'est pas la folie qu'il gagnait, c'est que le mec était possédé par
Par
un
une
espèce d'extraterrestre,
créature.
enfin, une créature extérieure. Enfin bref.
Voilà, un
Oui,
ancien
c'est
dieu,
très
des choses
Lovecraft.
comme ça, quoi. C'est Lovecraft, hein. Il y avait quelques araignées au plafond quand même, hein, faut bien l'admettre.
Ah, je sais pas, c'est quand même bien écrit, hein, mais ouais, c'est
Ah oui,
particulier.
c'est bien écrit, mais c'est vraiment particulier. Ça plaît pas à tout le monde. Faut vraiment accrocher au. C'est pas facile d'accrocher, je trouve.
Bah, du coup, je vais reprendre un peu la main.
Oui?
Donc, il faut bien reconnaître que c'est une sacrée aventure que nous a fait vivre Frédéric Reynal. Une aventure qui salit les pantalons, mais bon. Moi, personnellement, j'ai bien aimé la parcourir, c'était assez sympa. Alors maintenant, il faut parler d'un débat qui fait rage sur le possible plagiat entre Resident Evil et Alone in the Dark. Bon, comme je disais, une fois qu'on a pratiqué les deux, c'est un peu comme si on comparait Super Mario et Sonic. C'est effectivement deux jeux de plateforme pour Mario et Sonic. Là, on est dans deux survival horror, mais on n'a vraiment pas du tout la même approche. On est pas d'un côté dans les énigmes, et de l'autre même si le premier Resident Evil n'est pas spécialement porté sur l'action, on est quand même plus dans l'action que dans la réflexion, sans vouloir être trop réducteur pour Resident Evil. Bon, par contre, c'est vrai que quand on regarde de loin, on a 3D, caméra fixe, un manoir, au moins au début pour Resident Evil, même si Alone in the Dark sort pas trop du cadre du manoir. Mais quand même, dans l'ensemble, il n'y a pas débat, c'est pas les mêmes jeux, quoi.
Non,
Enfin, moi, c'est ce
complètement.
que j'en pense. Je
Non,
sais
mais
pas pour toi, mais.
je pense qu'il y a, comment dire, l'idée, une ambiance générale, c'est-à-dire que essayer de faire peur aux joueurs, bah, c'est le but absolu, le faire avancer dans une aventure. Après, vouloir dire qu'il y a eu un plagiat, c'est un peu tiré par les cheveux, quoi. Franchement,
C'est un peu excessif.
ouais, c'est vraiment deux jeux différents. Et puis, personnellement, moi, j'ai déjà joué au Resident Evil comme ça. Je l'ai jamais fini, hein. J'ai joué un petit peu comme ça. Bah, tu vois, autant Alone in the Dark, j'ai accroché, autant Resident Evil m'avait pas marqué plus que ça, quoi. C'est voilà, c'était pas, c'était à l'époque, c'était pas ma tasse de thé, tu vois. Je crois que j'ai pas avoir rejoué un jeu de la licence depuis. Donc, tu vois, on n'accroche pas. C'est peut-être deux publics différents, tout simplement.
Ouais, possible. Moi, je sais que j'aime bien les deux licences, mais enfin non, pardon, pas les deux licences, parce qu'Alone in the Dark, à part le premier, mais ça, je vais en parler après. Mais ouais, Resident Evil, j'aime bien, mais le premier, il me fait vraiment peur. Le premier, j'arrive pas à avancer, même sur DS avec un petit écran en plein jour, ça passe pas. J'ai peur, donc je laisse tomber. Alone in the Dark m'a pas fait autant peur. Une fois que j'ai compris la logique du jeu, la peur, elle est passée. Je trouve que Resident Evil, t'es vraiment dans la peau de la proie, quoi. Clairement, c'était une proie. Bon, enfin bon. Ça, c'était mon petit avis, voilà. Pour revenir à Alone in the Dark, du coup, on peut noter que la série a connu deux suites dans la foulée, parce qu'il y en a eu d'autres plus tard qui ont essayé de relancer avec plus ou moins de succès la licence, mais plutôt moins quand même. Mais les deux suites dans la foulée, elles ne sont jamais parvenues à égaler l'original. Bah, tout d'abord parce que Frédéric Reynal est parti, en claquant la porte, et que Bruno Bonnell n'a jamais voulu investir dans un nouveau moteur, donc ce qui était une révolution en 92 l'était nettement moins en 95. Et le départ de Frédéric Reynal, du coup, c'était encore une fois à cause de Bruno Bonnell, quel génie. Il voulait une suite paresseuse 6 mois après la sortie du premier, et Reynal, lui, voulait améliorer un petit peu tout, et offrir une vraie suite un peu plus ambitieuse. Le conflit éclaté, l'équipe à l'origine du jeu quitte Infogrames et fonde Delphine Software. Une fois encore, Bonnell fit un petit coup d'éclat à la remise des prix pour Alone in the Dark, en allant tout seul chercher le prix et en remerciant seulement sa grand-mère et son chien. La grande classe.
Ah, jusqu'au bout, disons que.
Ah ouais, non mais Brunel, c'est un espèce de tête de con du début à la fin. Alors pour ceux qui regardaient souvent M6, à un moment ils ont essayé de refaire The Apprentice, là, le truc de Schwarzenegger, je crois, ou Trump. Trump, c'était Trump, une télé-réalité qu'animait Trump. Avec un chef d'entreprise qui prend des jeunes cadres dynamiques pour les former à son image. Et quand M6 ont voulu le faire, ils ont pris Bruno Bonnell
Ah.
en tant que modèle de réussite. Et honnêtement, je crois que l'émission, elle a dû faire deux émissions sur toute la saison qui était prévue avant de s'écrouler. Mais à chaque fois, j'en avais des plaques d'urticaire de voir sa gueule de con. Le mec, il a planté. Enfin, Infogrames, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo des années 90. C'est vraiment le diable, pour reprendre un peu les blagues de joueurs du grenier, mais même quand t'essayes les jeux, c'était pas possible, quoi. Il a planté Infogrames, il a planté Atari, et il a planté tout ce qu'il a fait. Et en plus, c'est un con. Bref. Je reviendrai sur lui un jour, je crois que je vais même le payer, un de ces quatre.
Ah, il mérite une émission à lui tout seul, on dirait.
Ah ouais, j'aime pas trop ce genre de personne. Bon, et en tout cas, au début des années 2000, il y a eu quelques tentatives, donc comme je disais, pour relancer la franchise, allant du sympathique au vrai navet. Mais il y a quand même plus de navet que de sympathique. Et en parlant de navet, Alone in the Dark a été adapté au cinéma par Uwe Boll, un autre personnage très sympathique dont je parlerai probablement dans des hors-série de Popcorn, parce que vraiment, celui-là non plus, je peux pas me l'encadrer. Voilà. Et le film est vraiment bien à chier. D'ailleurs, pour le coup, si vous n'avez pas vu les chroniques de Karim Debbache, je crois que c'était Crost, il en parle d'Alone in the Dark, je vous le conseille fortement. Et pour finir, si vous voulez aussi essayer cette petite pépite, eh bien, c'est simple, il est sur Abandonware.fr. Je mettrai le lien dans l'article, comme ça vous pourrez vraiment, vraiment l'essayer. Est-ce que tu as autre chose à ajouter de ton côté, toi?
Sur le jeu en lui-même, oui, tu as parlé de deux suites. Il y avait même eu une sorte de petite, de petit jeu qui avait été offert, si je me rappelle bien, où tu incarnais une petite fille qui était
Une
coincée à
petite
Noël.
fille, ouais, dans un magasin de jouets, je crois.
C'est ça, j'ai un vague souvenir et ce jeu était offert. C'était le moteur de Alone in the Dark.
C'était une démo technique à l'origine, ouais. Et vu que le jeu était très jouable, ils l'ont mis Jack in the Dark, je crois,
C'est peut-être ça,
que
ouais.
ça s'appelait.
C'est ça, voilà, il y avait eu ce. Alors, c'était un jeu qui se finissait en même pas une demi-heure, hein. Je crois que c'était
Mais
assez.
ils tâchaient le slip aussi, hein.
Ah oui, il faut aller prévoir sa pile, hein. Sa pile de slip propre, hein. Voilà.
Ah ouais, celui-là, il
Ouais,
m'a fait
c'était.
plus peur que Alone in the Dark.
Ah, c'est ton côté petite fille qui est remonté en toi, normal.
Je me sentais encore plus vulnérable de jouer une petite fille, je sais pas, c'est peut-être con comme truc, mais je me sentais vraiment vulnérable dans celui-là.
Bah, c'est logique d'une certaine façon. Quand tu joues un adulte, tu sais que tu peux avoir des armes, des choses à ta disposition, des compétences. Un enfant, t'es censé être quasiment. Oui, t'es une proie.
Innocent.
T'es juste une proie.
Il était pas mal, et je le conseille aussi, et il est aussi trouvable sur Abandonware.fr, hein, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu y jouer aussi à celui-là, et au 2 et au 3. Et c'est vrai que j'avoue une petite préférence, moi, de mon côté, pour le 3, qui se passe dans une ville fantôme du Far West, et...
Ah, c'est ça, le 3 était au Far West. Le 2, je me rappelle d'un grand labyrinthe. Un grand labyrinthe extérieur d'herbe, enfin de sapin ou quelque
D'herbe,
chose
un
comme
petit peu
ça.
comme à la fin de Shining, ouais.
C'est ça, un labyrinthe comme ça. Mais je crois pas avoir joué aux deux, tu vois. J'avais pas acheté, déjà parce que j'avais peut-être lu des mauvaises critiques, j'avais peut-être pas assez d'argent, je sais pas. En tout cas, j'y ai pas joué. Et j'ai l'impression que j'ai
Bah, le
pas
2,
perdu
il
grand-chose.
est très proche du 1 en fait. Non, il n'y a pas grand chose qui change. Il est vraiment très proche du 1. Même l'histoire est quasiment la même. Alors qu'au moins, le 3, bah, le côté ville fantôme au Far West, c'est sympa. Même si le 3, dès le début, tu te retrouves dans un duel avec un spectre. Et il te fout 2 balles, t'es mort.
Ah, ça commence
Donc
mal.
ça te met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Et bah écoute, si t'as rien à ajouter, je vais te remercier chaleureusement
Mais
d'être
de
venu
rien.
partager avec nous tes souvenirs.
Ah bah, c'était un vrai plaisir.
Et puis bah écoute, on se dit à la prochaine
Ah bah,
et
dès
puis
que
voilà.
possible, ça sera un vrai bonheur.
Ah bah plaisir partagé encore une fois.
Et bah, impeccable.
Bon allez, salut à tous, à la prochaine.
À plus, salut.